Bonjour. Nous sommes entrés dans le temps du carême et je ne l'ai pas fait exprès, mais je voudrais aborder avec vous maintenant au sujet de la vie familiale dans cette très longue série ce que je vous ai annoncé à plusieurs reprises, à savoir les contradictions, les malheurs, les échecs de la vie familiale, aussi bien en ce qui concerne le couple, mari et femme, que dans les relations entre générations, d'abord à l'égard des enfants, ou peut-être à l'égard des parents, et puis peut-être toute la famille au sens le plus large du mot. Et j'ai employé exprès trois mots, contradiction, malheur, échec. Vous me direz, vraiment, ce n'est pas très optimiste comme perspective. Mais en distinguant bien ainsi des sortes de niveaux d'épreuve, et j'emploie ce quatrième mot, le mot d'épreuve, en un sens plus général, au sens où le carême nous invite à entrer dans une foi plus éprouvée, dans un amour plus éprouvé, dans une espérance plus éprouvée. Jésus nous dira que cette épreuve, c'est celle à laquelle tout disciple est soumis. Et cette image de l'épreuve sera reprise dans les épîtres de saint Paul et dans le Nouveau Testament en général, comme ce que l'on soumet à l'épreuve du feu pour épurer un métal précieux, par exemple. Eh bien, il me semble que cette épreuve, c'est un appel à un amour plus pur, plus véritable, plus généreux, plus grand. Un appel de qui ? Un appel de Dieu, qui correspond aussi au désir de notre cœur, car c'est lui, Dieu, qui met ce désir en nous, d'un si bel amour et d'un si grand amour, et nous donne la force d'avancer plus loin que nous n'aurions soupçonné pouvoir le faire. Alors, allons-y doucement, parce que je sais bien que s'il y a des lieux éprouvés, c'est bien celui de ces relations intimes qui représentent la cellule primordiale de l'existence humaine. Car au fond, déménager, changer de maison, changer de métier, changer de ville, changer de relation, tout cela, c'est monnaie courante maintenant dans notre siècle de mouvement. Mais on ne choisit pas son père et sa mère. Et les aventures et les mésaventures de l'amour ne sont pas aussi simples que l'air du temps voudrait nous le faire croire. Et la relation aux enfants est encore quelque chose de plus mystérieux puisque c'est une relation inégale. Je veux dire que le sentiment des parents à l'égard des enfants n'est pas exactement symétrique que les sentiments des enfants à l'égard des parents, ni la dépendance, ni ce que l'un attend de l'autre aux différents âges de la vie. Vous le voyez, même celui qui est complètement orphelin, qui est sans famille, au sens le plus absolu du mot, est cependant le fils de quelqu'un, la fille de quelqu'un, et ne peut pas se penser en dehors de cette situation d'un être qui est entré dans la chaîne, dans la continuité des générations et des êtres humains. Ou alors, c'est quelqu'un qui se laisse couler littéralement, qui détruit tout autour de lui ou qui ne veut plus rien savoir. Ça arrive aussi, soit par désespoir, soit par lassitude, soit pour toute autre raison. Alors, ces grandes considérations achevées, je vais prendre le cas le plus immédiat à la pensée de beaucoup, c'est celui du couple. Mais comme j'en ai pris l'habitude et la liberté, je ferai des sinusoïdales. Vous savez bien que dans ces entretiens avec vous, je me laisse guider par vos réactions telles que vous les exprimez, ou que je les perçois, ou je les sens, les circonstances, le fil de la pensée, mais nous finissons bien toujours par retrouver notre chemin. Alors les contradictions. Qu'est-ce que ça peut être ? Les contradictions, c'est ce qui peut se passer entre un homme et une femme, une fois qu'ils ont décidé de faire leur vie ensemble, de se marier. Je ne parle pas actuellement du problème vraiment très, très grave et très compliqué à cerner de l'effondrement de l'institution du mariage. C'est une affaire que j'ai déjà évoquée, ou peut-être sur laquelle je reviendrai, indépendamment de ces entretiens-ci, en prenant pour soi-même, comme objet de réflexion. Mais supposons des gens qui se sont mariés avec le désir sincère, d'être l'un à l'autre et pour toujours, enfin pour toute leur vie. Et puis voilà que, comme les statistiques nous l'apprennent, au bout de quelques temps, souvent très vite, ils découvrent toutes sortes de contradictions. Il ou elle n'est pas ce qu'ils avaient rêvé, les agacements de la vie quotidienne deviennent insupportables, tout le bonheur espéré ne se réalise pas, l'affectivité de l'un ne correspond pas exactement à l'affectivité de l'autre, il peut y avoir des ennuis dans l'ordre de la relation sexuelle, il peut y avoir des incompatibilités d'humeur qu'on n'avait pas perçues au premier moment, les occupations de l'un deviennent trop absorbantes, ou bien l'autre, brusquement, s'intéresse à quelque chose qui ennuie profondément le premier, ainsi de suite, sans parler des humeurs qui peuvent changer, de l'affectivité, des coquetteries, des désirs contraires, parfois des séductions extérieures, d'une femme, d'un homme, autre. Nous voilà bien. Tout ce que je viens d'évoquer, ce que j'appelle des contradictions par rapport à quoi ? Par rapport à la réalité quotidienne de la vie d'un couple, par rapport à le sort normal de tout couple dans la société telle qu'elle est, on peut même dire de toute société à la limite. Eh bien, comment les prendre ? Si ce n'est comme des épreuves qui sont un appel à purifier l'amour, à le rendre plus généreux, à faire en sorte qu'il ne soit pas seulement la réaction immédiate à la sensibilité, au désir, à l'humeur, à ce qui convient sur le moment, mais la construction de deux vies qui vont passer leur temps à travailler, à s'ajuster. Car un couple, si vous voulez, c'est comme un avion qui vole. Si on n'entretient pas constamment le moteur, si le pilote, qu'il soit automatique ou qu'il soit à commande directe et manuelle, ne surveille pas à tout moment l'équilibre de l'avion, eh bien à ce moment-là, on va vers la catastrophe. Il faut donc qu'un couple apprenne à transformer le premier amour, ou bien ce que l'on pensait être le premier amour, en une véritable charité qui est l'âme de l'amour, qui est la substance de l'amour. Et la charité consiste à s'oublier soi-même par amour de l'autre, à se donner à l'autre, à aimer l'autre pour lui-même. Vous me direz, mais c'est très ennuyeux, c'est très irritant, c'est difficile. C'est difficile, c'est irritant, c'est ennuyeux si vous n'en restez qu'au premier pas. En fait, ce que je vous explique là à propos de votre couple, c'est ce qui se passe pour tout acte de charité. Car tout acte de charité est un dépassement de soi dont on trouve la récompense au moment même où ce dépassement s'accomplit. Et on la trouve pas forcément à la manière dont on l'avait espéré. Mais c'est ça l'amour, c'est rien d'autre l'amour. Sinon, vous êtes condamné à ne jamais aimer. Vous avez confondu le rêve, l'illusion, le désir jamais satisfait, le vagabondage affectif avec l'engagement réel d'une liberté à l'égard d'autrui. Alors là, je suis très ferme, très carré, vous vous en rendez compte. C'est pas pour dire que ces contradictions qui existent dans tout couple, et je pourrais dire la même chose dans les relations parents-enfants, frères-sœurs, et parents-enfants dans les deux sens, les jeunes parents à l'égard de leurs enfants jeunes, ou bien le couple à l'égard de son propre père, de son propre parent s'ils les ont encore... que l'un appelle beau-père, belle-mère, et réciproquement, belle-maman et beau-papa. Eh bien, toute relation humaine rencontre cela parce que nous sommes ainsi faits. Vouloir rêver d'une relation qui ne serait pas de cette sorte, c'est pratiquement être complètement dupe d'un rêve inconsistant. Alors, vous le voyez, ces contradictions, il faut apprendre à les identifier, à les surmonter, à les supporter, à les dépasser, à vivre avec. Si vous espérez bâtir la vie d'un couple où il n'y ait jamais cela, ou si vous espérez que la vie réelle ne rencontrera jamais de contradictions, alors vous ne saurez jamais ce que c'est que de vivre une vie humaine responsable et libre, vous ne saurez jamais ce que c'est que d'aimer et d'être aimé. Le sacrement du mariage est précisément la grâce que Dieu donne à un couple qui ainsi a voulu, a décidé librement de se donner l'un à l'autre pour construire dans le mariage un foyer. La grâce, la force de Dieu, la force de l'Esprit Saint qui permet d'accomplir cette mission. Et c'est à cela que vous êtes appelés, non seulement pour votre bonheur mutuel, mais pour le bonheur des autres. Et il faut apprendre à transformer peu à peu ces contradictions, parfois qui ne s'effaceront jamais, parce que tel geste de votre conjoint vous agace, il est probable que jusqu'à la fin de votre vie, il vous agacera, sauf si vous savez faire avec, ne pas regarder, ne pas vous irriter, savoir prendre votre distance, aimer davantage, pardonner, que sais-je. Bon, voilà, j'ai été beaucoup trop long dans ce que je voulais vous dire brièvement, mais il y a, au-delà de ce premier point qui sont les contradictions inéluctables, inévitables, et qui se retrouvent dans toutes les relations, il y a ce que j'appelle les malheurs. Les malheurs, c'est ce qui n'était pas nécessairement prévisible, car les contradictions, elles sont prévisibles, ce que je viens d'évoquer, d'une manière ou d'une autre. En revanche, le malheur, c'est ce qui vous arrive alors qu'on ne l'attendait pas et que on pouvait se dire, ça ne m'arrivera pas. Quels sont-ils, ces malheurs? Ça peut être de toute espèce. Ça peut être les malheurs de la santé, des échecs de la vie. Ça peut être aussi des erreurs ou des épreuves, des dérives subies par l'un ou l'autre des conjoints que rien ne permettait de découvrir à l'avance. Craquement psychique, grave maladie, chute spirituelle ou psychique, je ne sais pas, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être la drogue, Dieu sait quoi. Il peut y avoir bien des épreuves de ce genre. Alors, comment faire et comment le prendre? C'est ce que, si vous le voulez, ce que nous essaierons de poursuivre dans notre prochain entretien.